Voilà, j'en arrête là pour les annonces, car il faut bien leur donner une fin aussi, car j'aimerais surtout partager avec vous ce matin une méditation. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime beaucoup le cinéma. Il y a des films, des types de films qui parfois sont assez omniprésents dans les salles obscures, notamment les films de super-héros. On commence d'ailleurs à en avoir un peu ras la casquette. Hein. Il n'y a plus que ça en ce moment, j'ai l'impression, au cinéma, surtout l'été. Bon, ça ne m'empêche pas d'aimer cela, mais notez quand même une chose, l'humanité, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, a toujours eu besoin de chercher des modèles, de se forger des figures qui soient, salut la bravoure, parfois la force intellectuelle, mais rarement quand même, plutôt la force physique ou morale. Et bien que ces personnages très souvent fictifs ont tout de même une forme d'importance, car ils participent, entre autres, à la construction de l'identité d'une civilisation. Regardez aux USA avec leurs comics et leurs super-héros, mais regardez aussi, il y a quelques siècles, voire millénaires, notamment chez les Grecs, ils avaient aussi leur forme de, alors pas super-héros, ils les appelaient simplement héros, ils n'étaient peut-être pas aussi ambitieux, mais des Thésée, des Hercules, ces personnages dont vous avez peut-être entendu un peu parler, ils ont toujours existé. Les Écritures, elles aussi, notre Bible, n'est pas avare en figures héroïques non plus. Nous avons là pas mal de héros bibliques. Et ils ont une qualité que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs, chez les autres héros que l'homme a imaginés. C'est qu'ils nous sont bien semblables, au bout du compte. D'ailleurs, tel celui qui sera un peu le point de départ de cette méditation que je veux partager avec vous. Car nous allons commencer à les regarder un petit peu avec un personnage, ou en couleur, si on veut, qui s'appelle Gédéon. Alors, la première lecture que nous aurons, puisque nous en aurons une tout à l'heure, se trouve en Juges, le livre des Juges, chapitre 6, et nous irons lire les versets 11 à 18. Juste pour voir un peu qui est ce Gédéon, comment il nous est présenté. Je ne vais pas aller plus loin. Donc, je vous invite à prendre le livre de Juges au chapitre 6, à partir du verset 11, et nous nous arrêterons au verset 18. Nous n'allons pas voir tous les exploits qu'il accomplit, ce serait beaucoup. Voyons juste comment il nous est présenté et comment Dieu vient à l'aborder. Alors, Juges 6, à partir du verset 11. Et je lis dans la Bible, dans la version Semeur. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin, pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ? Où sont donc ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte ? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël ? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Et Gédéon lui dit, « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. » J'arrête là ma lecture et nous en aurons une note tout à l'heure, un peu plus tard. Voilà, nous ne voyons pas trop aux exploits de Gédéon, nous voyons seulement comment il s'adresse et comment il est abordé. Comme évoqué juste avant de venir à notre lecture, et dans ce temps de lecture, Gédéon fait partie des figures héroïques de la Bible. C'est un héros biblique. Pour autant, quand on vient à le découvrir comme là, dans cette lecture, dans notre passage, ce n'est pas, a priori, le mot héros qui nous vient tout de suite à l'esprit. Il n'en a pas tout à fait l'air. Tant il semble à la fois hésiter, et voire cherchent à se trouver des excuses valables pour ne pas se mettre au service de Dieu et de répondre à son appel. Alors, c'est un service très particulier. Mais tout de même, je le caricature, certes, mais on entend chez ce cher Gédéon une salve d'arguments bien raisonnables, des arguments de poids qui l'autoriseraient à ne pas suivre la voie que le Créateur a déjà préparée pour lui, aller combattre les Madianites. Lui qui est en train de battre son blé dans quelque chose qui n'est pas fait pour. Il le fait en se cachant. Il fait son job d'agriculteur en se cachant. Et on lui dit d'aller battre ceux pour qui il se cache en faisant son simple boulot. Effectivement, c'est pas gagné. Mais dans cette introduction à l'histoire, au récit de Gédéon, qui est notre passage, on discerne chez lui, du moins c'est ce que j'ai cru voir, une peur. Une crainte de se mettre au service de Dieu, pour le dire tout en résumé. Une crainte nourrie par la complexité des soucis de son temps. C'est une autre époque. Pour lui, le grand souci majeur, les Madianites. Ces voisins qui nous oppressent, ces voisins qui nous empêchent même de faire notre propre récolte et nous obligent à nous cacher pour pouvoir le faire, sans être embêtés par cela. Une crainte encore liée peut-être à sa jeunesse, au fait qu'il ne se voit pas comme un personnage important, statutaire, charismatique, ou que sais-je. Il fait partie de la famille qu'il voit comme la plus humble au sein de sa tribu, et il est le plus petit de cette famille. Pourquoi lui ? Bref, il a quelques bonnes excuses, a priori très valables même. Et je m'arrête à propos de Gédéon et puis je regarde à nous-mêmes. Heureusement, il n'y a pas des Madianites au dehors qui nous empêcheraient d'aller faire notre travail normalement. Mais qu'en est-il de, pour nous, dans notre existence, dans notre vie de disciples, qui cherchent à servir notre Créateur, notre Sauveur dans le quotidien de nos vies ? Je crois qu'il nous arrive à nous aussi d'avoir peur. D'avoir peur pour X raisons de servir Christ dans la mission qu'il veut nous confier, notamment même dans l'Église. Or, qu'est-ce que cela peut vouloir dire quand je l'exprime ainsi ? Pourquoi servir peut-il faire peur ? Pourquoi de telles craintes ? Je vous apporte une réponse. Parce que servir exige une première chose, une chose cruciale, c'est nécessairement se mettre en retrait. Je vais vous expliquer, le développer. Servir, c'est avant tout s'humilier, s'effacer à la faveur de quelque chose ou de quelqu'un d'autre que soi. Servir, c'est donc se donner pour une cause, là je le définis très généralement, mais c'est donc se donner pour une cause ou pour un autre. C'est prendre soin aussi de cette cause ou de cette autre. Cela signifie, si je dois le résumer après cette définition, savoir mettre ses intérêts. Savoir mettre les intérêts d'un autre avant les siens. Et ça, ce retrait volontaire, cette humilité, cet effacement, c'est quelque chose qui effraie très souvent. Il faut l'avouer. Pourquoi je dis cela ? Vous allez voir que c'est très simple et nous allons tous nous reconnaître, je crois, différemment. Parce que nous pensons que nous risquons gros, que nous allons perdre beaucoup, pour le dire autrement, en agissant de la sorte. Déjà, se faire serviteur, cela prend du temps. Cela prend de l'énergie. Une énergie et un temps que je consacre à moi, qui me semble nécessaire, utile, invariable, que je ne peux toucher. J'exagère un peu, mais c'est plus ou moins comme ça qu'on peut le voir. Or, si je dois ou je viens à servir dans l'Église, oui, alors, je vais devoir prendre du temps, hors de chez moi, hors de mes préoccupations, hors des choses que je me dois de faire pour que tout aille bien et que tout continue. Prenons quelques exemples plus précis. C'est du temps que je ne passe pas à faire les petits travaux du quotidien. Le ménage, par exemple, pour ceux qui aiment ça. Ou pour ceux qui n'aiment pas aussi, d'ailleurs. C'est du temps que je ne passe pas à me reposer, La vie, le rythme que je mène, exige que je trouve des temps de repos. Et je comprends. Ou alors, et c'est tout aussi important après tout, c'est du temps que je ne passe pas à faire du sport. Mon organisme, si je ne l'entretiens pas un peu, un de ces jours, il va mal se comporter. C'est du temps, alors là vous allez me dire c'est encore plus crucial, c'est du temps que je ne passe pas avec mes enfants. Je sacrifie ce temps. C'est du temps aussi que je ne passe pas à prendre soin, alors là, bon, peut-être que vous allez plus vite sacrifier cela, à toute la paperasse qui s'accumule chez vous. À vous de voir. Hein. Là aussi, il y a une importance. Si vous négligez de payer vos impôts, à un moment donné, bim, ça va vous tomber dessus. Ne l'oubliez pas. Et puis pareillement, si je sers en donnant, alors là, je change de registre, mais une partie de mes revenus pour l'Église, ce que peut-être certains appellent la dîme, comment puis-je être sûr que j'aurai assez pour la fin du mois? C'est une question très légitime aussi, certainement pour plusieurs d'entre nous ici. En bref, voilà quelques exemples, ce sont juste que des pistes. Je pense qu'on a peut-être dû se reconnaître un petit peu. Moi-même, je m'identifie à cela. En bref, servir dans l'Église engendre souvent de la peur et des craintes. Plus encore, servir Dieu engendre de la peur et des craintes. Pour Gédéon, c'était le cas. Ses raisons étaient autres. Parce que servir, c'est aller à l'encontre des fondements, notamment de notre culture moderne. Je ne regarde jusqu'au temps. Nous n'avons plus de temps aujourd'hui dans cette civilisation. Or, suivant nos cultures, parfois, on se regarde un peu différemment, mais c'est vraiment aller à l'encontre de notre culture moderne, c'est-à-dire de mettre mes propres intérêts en retrait tout à coup, en arrière-plan. Ce n'est pas quelque chose de naturel, d'évident. Autrement dit, servir dans l'Église demande quelque chose qui pourtant nous semble évident, mais quand il s'agit de le vivre, n'est pas si facile. Servir Dieu et servir l'Église demande de l'humilité, car c'est en fait cela. Et c'est aussi de cette manière-là dont la Bible parfois l'évoque. Oui, servir fait peur, parce que si je sers, si je mets en retrait, mon moi doit être un peu derrière. Qui prendra soin de moi et de mes affaires? Dans une société bien trop individualiste comme la nôtre, c'est là une des plus grandes craintes intérieures de toutes les hommes et femmes. Si je ne fais pas tout ce que je dois faire, si je ne m'accapare pas tout cela, qui va le faire pour moi? En général, la réponse est personne. Chacun se regardant à soi-même et aimant bien regarder à son nombril, plus ou moins. Je ne sais pas si vous trouvez votre nombril très joli, à vous de voir. Mais je ne veux pas m'arrêter à cela et j'aimerais aussi aller regarder encore ailleurs pour voir comment un autre auteur biblique nous parle de cette humilité et de servir Dieu. Vous allez voir, je trouve ça très très intéressant. Je vous invite aussi à aller regarder, alors cette fois-ci du côté du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, dans l'épître, la première épître par contre, de Pierre. Donc, première épître de Pierre, chapitre 5, et nous allons aller lire les 7 premiers versets. Je vais m'intéresser surtout aux 2 derniers versets de notre lecture. Donc je vous redonne la référence de notre texte. Je vous invite tous ceux qui le peuvent à le prendre. 1 Pierre, chapitre 5, les versets 1 à 7. Les premiers versets, nous les regarderons de loin. Mais ils sont importants pour comprendre la suite. 1 Pierre 5, versets 1 à 7. Merci pour l'affichage. Écoutons. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux, et témoin des souffrances du Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non comme si vous y étiez forcés, mais de plein gré, ainsi que Dieu le désire. Faites-le non comme si vous y étiez contraints, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Écoutez plus encore les versets qui suivent. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Ça, on peut encore presque, c'est lié à toute la suite. Mais à partir de là, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et je m'arrête là. J'ai fait un découpage qui n'est peut-être pas celui que vous voyez dans vos Bibles, mais ce sont ces versets 5 à 7 sur lesquels je vais surtout m'arrêter maintenant. Que fait Pierre ici ? Il nous parle de l'humilité chrétienne. Il n'est pas le seul. Paul l'a eu très bien fait. Il y a notamment ce magnifique texte en Philippiens 2 que je vous invite à relire régulièrement. Mais il nous parle de l'humilité chrétienne, de ce retrait volontaire. Aussi, demandons-nous comment, selon l'apôtre, ça marche, l'humilité chrétienne. Comment lui le voit et comment il l'enseigne ici. Le premier constat est que tous sont appelés selon leur rôle respectif dans la communauté, selon la charge que Dieu leur confie, sont tous appelés au service. Tous. Car lorsque Pierre s'adresse aux jeunes gens, on l'a entendu tout à l'heure au verset 5, à votre avis, à qui il s'adresse ? Est-ce qu'il parle au groupe d'ados de l'époque, au groupe de jeunes, voire de jeunes adultes, et encore, ils commencent déjà à se faire vieux ? Est-ce que c'est seulement eux ? Il ne s'adresse non pas à une des générations dans la communauté, ça c'est une conception très moderne, qui n'existait même pas il y a quelques décennies, je crois, pas trop, mais il s'adresse en disant « vous, les jeunes », d'ailleurs après il dit « vous tous », pour moi ce sont les mêmes personnes, ou presque, mais à l'ensemble de la communauté. À part ceux peut-être qui sont déjà dans le service et ont pleinement compris ce que le service signifiait, même s'il leur appelle aussi leur devoir. Mais quand il dit « à vous », jeunes, il s'adresse à l'ensemble de la communauté, d'une certaine manière, en usant de cette expression par contraste avec ceux qui ont la responsabilité d'anciens. Ceux qui, nous l'espérons, ont déjà bien saisi ce que signifie le service, ce que signifie cet appel à l'humilité. Mais voilà, servir Dieu, en tant qu'ancien ou pasteur, et bien entendu en tant que disciple du Christ dans l'Église, dont tous, cela peut faire peur. Parce que le service est un abandon. Il faut s'abandonner un peu, voire même beaucoup. C'est une mise en retrait de ses propres intérêts immédiats. Mais alors, comment ça marche ? Comment une telle organisation, comment un tel troupeau, comment une telle communauté peut-il ou peut-elle vraiment fonctionner et bien avancer ? L'humilité de tous, c'est pas évident, hein ? Quand on voit les tentations qui peuvent animer ce que Pierre appelle les anciens, qu'on peut appeler aussi pasteurs, mais pas seulement pasteurs d'ailleurs. Celle que Pierre évoque au verset 2 et 3, quand on voit combien la soumission à l'autorité, la confiance peuvent être difficiles pour certains. Comment faire pour vivre l'Église sans tomber dans tous les écueils que l'ennemi place sur notre route ? Et il y en a. Eh bien Pierre l'explicite dans ces versets sur lesquels je vous ai demandé d'être plus encore attentif, c'est-à-dire à partir du verset 5, ou même un peu après le début du verset 5. Et il s'exprime ainsi, il dit... Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. C'est en gros ça déjà, le tout début de son propos là. Pour Pierre donc, pour que ça marche, pour que l'Église, dans sa globalité, dans ce qu'elle est en tant que corps du Christ, puisse le servir pleinement, tous doivent se revêtir d'humilité, de rejeter l'orgueil. Tous, pas juste les membres du troupeau, les anciens aussi, tous. En effet, nous le savons, nous l'entendons de ci et de là, hein, tout au long des Écritures, les fiers, les orgueilleux, les arrogants, alors bien sûr ils ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leurs propres intérêts, leurs propres besoins, qu'à leur propre gloire. Et en cela, à cause de cela, ils ne peuvent pas prendre part, j'allais dire, au fonctionnement, à l'avancement du troupeau. Mais ils ne prennent pas directement part au royaume de Dieu. Rappelez-vous, il faut essayer de passer par un petit chat d'aiguille. C'est pas évident, hein, faut de sacrée humilité, hein, d'une certaine manière. Quant aux humbles, eux ne recherchent pas leurs propres intérêts. Ils ne recherchent l'intérêt des autres. Ils recherchent même l'intérêt du tout autre. Ils servent en se donnant pour le troupeau. À la manière d'une personne qui nous a montré profondément le meilleur des exemples qui soit, Christ, lui qui est mort sur une croix pour nous, pour les siens. Oui, Pierre a complètement raison. Il n'y a que l'humilité de tous qui peut permettre au troupeau d'avancer. Et son invitation à l'humilité, alors ce n'est pas un mauvais mot que je vais donner là, est bipolaire. Souvent quand on entend ce mot-là, on s'entend tout de suite là. C'est juste qu'il y a deux pôles. C'est ça que ça veut dire, tel que je l'entends ici. Oui, son invitation a deux pôles à propos de l'humilité. D'un côté, il dit, c'est donc en servant avec humilité, en plaçant le troupeau en premier, que les bergers conduiront le troupeau vers le Christ. Ça, c'est pour un pôle, si on peut l'exprimer comme ça. Et de l'autre côté, dans son propos, il dit, pour l'autre pôle, c'est en suivant les bergers avec humilité et confiance que le troupeau avancera vers le Christ. En gros. Voilà un peu la tension nécessaire. Et il faut que cela fonctionne comme ça. Pierre s'adresse à l'Église selon donc deux pôles. Et tous, je vais accentuer à fond sur ce mot-là aujourd'hui, tous sont invités à l'humilité. Tous sont invités à mettre en retrait leurs propres intérêts pour laisser davantage de place à l'autre. Et donc, quand nous y parvenons, au tout autre. Mais au bout du compte, on serait en droit de se dire, la petite question revient, qui va s'occuper de moi ? Ah oui, elle est toujours là la question. Nos craintes sont là, elles ne s'évacuent pas aussi facilement. C'est une question qui d'ailleurs semble, a priori, bien légitime. Plus encore dans une époque où l'on se rassure en ignorant l'autre. Je me porte mieux si je ne sais pas comment mon voisin se porte. Après tout, c'est ses problèmes. Et en préférant se concentrer sur ce joli petit nombril que nous avons apparemment. Comment cela pourrait se traduire chez le disciple du Christ ? Je veux bien participer à l'avancement du troupeau, je veux bien le servir, mais pratiquement, dans le fait, dans la réalité, qui va s'occuper et de ma paperasse ? Surtout si on n'aime pas ça, que ça nous prend des heures pour arriver à trois fois rien. Qui va s'occuper des travaux ? Ma maison est en train de s'écrouler, il y a besoin d'un entretien fort, et déjà moi j'y arrive pas. Comment ? Mais pour des choses plus simples, mes enfants, si je suis ailleurs, qui va être avec eux ? Qui va les accompagner ? Je veux bien donner, je veux bien me donner, mais qui va payer mes factures ? Aïe. Je veux bien même me donner à fond, mais quand vais-je me reposer ? Ces questions, je le répète, restent légitimes. Car elles trahissent nos angoisses, elles trahissent des réalités profondes chez nous. Mais n'en oublions pas que ce questionnement peut aussi être un frein à notre engagement pour Dieu, dans l'Église. Des freins à notre service, des freins à notre vie de disciple. Parce que pour moi, service et vie de disciple, pas trop matière à les séparer. Des freins, plus encore, à l'exercice de l'humilité qui fait avancer tout le troupeau. Oui, tout cela nous fait peur et nous freine. Parce que bien souvent, à court terme, en tout cas, nous avons l'impression que le service sera à notre désavantage. Ce serait comme un mauvais investissement. Donner du temps, servir l'Église, je vais perdre quelque chose. J'exagère, mais nous fonctionnons et nous raisonnons comme ça. Eh bien, Pierre répond à ses craintes dans ce qui suit, dans les versets 6 et 7. Et c'est là que je vous invite vraiment à vous attarder avec moi sur ces derniers versets. Écoutons-le encore. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. » Vous déchargeant sur lui de toutes vos anxiétés, car il prend soin de vous. Je m'arrête à cela. Dans la manière dont je l'ai dit, vous ne voyez peut-être pas la différence entre, peu importe nos traductions, ce que vous avez écrit devant vous très souvent, dans sa ponctuation, et ce que je viens de dire. Car souvent, nos Bibles ne traduisent pas tout à fait ces versets comme cela. Mais ce n'est pas dans l'écoute que ça se voit. Elles mettent un point, tout simplement, entre le verset 6 et le verset 7. On n'a plus l'habitude de savoir comment c'était écrit autrefois. D'ailleurs, on n'y arrive pas très souvent à le lire. C'est comme si, à cause de ce point, il y avait deux idées différentes. D'un côté, s'humilier, de l'autre côté, se décharger. Deux choses à essayer de gérer, l'une puis l'autre, ou l'une puis l'autre, peut-être. Enfin bref. Or, dans le texte, lorsque Pierre écrit, il n'y a pas de ponctuation qui sépare l'un et l'autre. Une meilleure traduction est d'y voir qu'une seule et même phrase, qu'une seule et même réalité. Autrement dit, que ce que dit Pierre là n'est qu'un seul et même propos. qui dit le lien entre le fait de s'humilier et le fait de se décharger de ses anxiétés et de ses fardeaux. L'humilité à laquelle nous appelle tous l'apôtre et le fait de se décharger ne peuvent former qu'une seule chose. Se conjuguent parfaitement, si vous préférez. En fait, ce que Pierre est en train de dire, c'est que l'humilité que Dieu attend de nous devient possible dès lors qu'on se décharge de ses anxiétés sur lui. Pierre sait qu'une des plus importantes barrières empêchant tout disciple, tout chrétien, de vraiment s'humilier pour l'avancement du troupeau, pour l'avancement du règne de Dieu, ce sont ses propres peurs et ses propres angoisses. Et l'encouragement que Pierre nous offre ce matin est celui qui est lié ici à cette humilité, se décharger de ses anxiétés et de ses peurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se décharger ? C'est pas quelque chose d'évident. Je crois qu'hier matin, à la fin de la Bible en un an, avec quelqu'un, on parlait un petit peu. Et il y avait cette notion de se décharger qui apparaissait dans notre échange. Se décharger, c'est déposer quelque chose sur quelqu'un d'autre, que soit. Somme toute, si je prends un dictionnaire, on trouve à peu près ça. La seule autre fois, bibliquement, où le verbe qui apparaît ici chez Pierre est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est pas tous les jours apparemment qu'on le voit, c'est quand les disciples ont déposé leur manteau sur l'anneau. Vous savez, avant que Christ n'entre à Jérusalem, juste avant son entrée triomphale. C'est là où on retrouve ce verbe-là. Et cela l'illustre un peu mieux. Autrement dit, se décharger signifie donc, si vous avez un fardeau, un truc qui vous pèse, un truc qui vous empêche d'avancer, là où le Seigneur vous demande d'aller, pourquoi pas une valise ? Bon. Vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, dans la vie de tous les jours, d'un animal qui va le porter à votre place ? Et bien vous en déchargez, vous le posez sur lui, et qu'est-ce que cet animal ou cet autre va faire ? Il va faire le boulot à votre place. L'anon, si c'est un anon, travaille pour vous, il s'en occupe. Vous n'allez pas prendre l'anon et soulever l'anon pour porter le fardeau plus l'anon. Là, vous n'aurez rien compris. Hein. Ce serait dommage. Ce serait un peu plus compliqué aussi. Bien, ce que Pierre dit ici, c'est que Dieu est prêt à porter non pas quelques-uns de nos fardeaux, mais tous nos fardeaux, toutes nos anxiétés. Comme un anon peut porter des valises, pour ceux qui font du crapahutage dans les montagnes, là, au Tibet. C'est là l'une des choses les plus merveilleuses avec Dieu. Il nous commande, attendez à la suite, hein, il nous commande de le laisser porter ce qui est trop lourd pour nous, ce qui nous empêche d'avancer avec le troupeau. Du coup, se décharger de toutes ses angoisses sur lui est le chemin qui mène à l'humilité et aussi à la vie de disciple, au service si vous préférez. En effet, en étant libéré de la crainte et de l'angoisse, de tous ces tracas du quotidien, pourtant si légitimes, et en ne se souciant plus de qui prendra soin de moi, de qui, tous les qui, là, nous pouvons alors nous concentrer sur les besoins des autres. Nous pouvons alors, même plus encore, trouver la liberté d'être tout d'un coup disponible pour les autres et pour Dieu plus encore. Se décharger sur Dieu de nos anxiétés, c'est ce qui rend possible notre humilité. Ce qui rend possible notre service pour Dieu et pour le troupeau, qu'est l'Église. Dieu prend soin de chacun de nous. Pierre le dit, il l'affirme. Et c'est une vérité profonde, mais une vérité avec laquelle nous avons beaucoup de mal, en fait. Parce que dans la théorie, on le sait, mais on a du mal à l'accepter. Et c'est là que parfois notre foi est encore peut-être un peu fragile. Mais voilà, est-ce que nous croyons que Dieu est vraiment à même de porter nos fardeaux et nos anxiétés ? La question est évidente. Mais il faut oser relever ce défi-là, car c'est un sacré défi. Est-ce que nous croyons ce que Pierre déclare et promet au verset 7 ? Dieu prend soin de nous. En fait, cette question, c'est la suivante. Croyons-nous, vous allez voir, j'ai même plusieurs questions. Croyons-nous vraiment que Dieu est capable de faire mieux que nous ? Très souvent, c'est ça la difficulté. Oh, mais je vais y arriver. On peut se décharger sur lui. Croyons-nous qu'il sait bien mieux s'occuper de nous que nous nous occupons de nous-mêmes? Parfois, je vois ce que je fais, je me dis franchement... Enfin bref, je nous laisse à chacun regarder un peu à nos manières de faire pour nos propres petites ambitions, nos propres tracas. Croyons-nous qu'il est largement même plus efficace pour nous que nous le sommes pour nous-mêmes? Et puis, au-delà du fait qu'il soit capable de prendre soin de nous, croyons-nous aussi qu'il désire le faire? Parfois, nous avons même du mal à ce niveau-là. C'est pas évident. Croyons-nous, et je finis parce que je vais arrêter avec mes questionnements, mais qui souligne à quel point nous sommes peut-être en difficulté par rapport à cela. Nous avons la théorie, c'est évident, Dieu prend soin de nous, ça oui. Mais dans la réalité de la vie de tous les jours, est-ce que je lui fais aussi confiance? Ma dernière petite question qui souligne ça encore, croyons-nous que Dieu prend plaisir à prendre soin de nous? J'en suis sûr, mais ce n'est pas toujours évident pour moi. Pas toujours. Oui, Dieu sait et Dieu veut prendre soin de nous. Il est prêt à porter pour nous tout ce qui nous empêche de servir. Tout ce qui nous empêche de vivre pleinement notre rôle dans le troupeau, dans son église, dans son peuple, pour l'avancée de son royaume. Et oui, nous pouvons faire confiance à Dieu. Et je le répète, c'est Pierre qui le dit avant moi, bien évidemment, il prend soin de nous. Alors peut-être que j'ai pas une jolie Porsche dans mon garage. Dieu, franchement, je croyais que tu prenais soin de moi. Bon, je caricature fortement. Hein. Ai-je vraiment besoin de ça? J'exagère. Mais revenons à ce que je veux dire. Oui, nous pouvons faire confiance à Dieu. Il prend soin de nous. La réponse est évidente dans l'absolu. Oui, Dieu prend soin de moi et des miens. Ça, c'est, je le sais, c'est dit bibliquement. Je peux même aller trouver les versets qui disent que... Mais pour autant, dans le concret de ma vie, est-ce que nous y parvenons aussi aisément? Et je crois que c'est certainement dans notre vie chrétienne, dans notre vie de disciple, l'un des enjeux importants pour goûter pleinement à la vie de disciple. En m'entendant dire cela, vous percevez que ce que je veux éveiller, bien sûr, chez chacun d'entre nous, à commencer par moi-même. Oui, nos craintes nous retiennent et retiennent l'Église dans sa vocation. Oui, j'aspire à ce que tous vous trouviez votre ministère spécifique dans l'Église. Ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué déjà plusieurs fois et puis même lors d'un week-end d'Église. Pas le dernier, mais le précédent. On avait commencé comme ça, après on a parlé de la prière. Il y a toute une pensée derrière cela. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me permets de revenir un peu là-dessus. Oui, j'aspire à ce que nous trouvions tous, que vous trouviez tous, votre ministère spécifique dans l'Église. Et rappelez-vous sur quoi se base notre ministère? L'humilité. Parfois, on commence par l'inverse. On trouve notre ministère et puis après, on cherche où se trouve l'humilité dans ce ministère. Bon, pas facile, hein? À ce que vous trouviez tous votre lieu de service et que vous puissiez vous y donner pleinement, dans la liberté que Dieu va vous donner, afin d'y trouver de la joie à son service, afin d'y trouver de la joie à le suivre au jour le jour. Et oui, aussi, je désire ardemment que tout ce qui vous empêche de servir, vous le confiez à Dieu, qui saura prendre soin de vous. Voire même, il faut oser le mot, à vous décharger sur lui. Parce que parfois, ça peut paraître un peu lourd de se décharger. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que nous devrions faire n'importe quoi non plus. Ça n'est pas ça, hein. Les travaux de la maison, il va bien falloir les faire à un moment. Passer du temps avec nos enfants, bien évidemment. Plus encore même. Et je ne suis pas en train non plus de demander de tout abandonner, de délaisser femmes et enfants pour vous donner à 100% dans l'Église. Ce serait une mauvaise compréhension de la chose. Non. Mais n'en oublions pas que l'ennemi aime nous angoisser. Alors ça, il aime bien. Il est plus malin que nous là-dessus, et puis il sait où sont nos petites faiblesses, et pif, il va toucher dessus, et puis ouh, là tout d'un coup, on recule. Il aime nous angoisser et joue avec cela. Je sais qu'il ne désire pas, lui, que nous venions à servir notre Dieu. Il ne désire pas, lui, en tant qu'ennemi, que nous nous humilions pour entrer dans son service. Et quand je dis son service, je parle de Dieu, là. Or, ce que je voudrais vous proposer ce matin... C'est un peu différent de mes manières de conclure mes messages, mais c'est simplement d'essayer pour chacun d'entre nous d'identifier une de nos propres craintes, juste une. Ne les prenez pas toutes ce matin, vous aurez encore du temps cet après-midi. Bon, j'exagère, mais identifiez peut-être l'une de vos propres craintes spécifiques, de celles qui contribuent à vous freiner, de celles qui vous retiennent un petit peu en vous disant « Ah Seigneur, j'arrive à te servir, mais je vois que tu m'invites à te servir encore autrement. » J'ai pas dit plus. Autrement. Ça peut être plus de temps, plus d'énergie, plus de tout ce que vous voulez, mais autrement. Celles qui nous freinent pour un engagement serein, obéissant et dans la joie. Ce qui n'empêche pas parfois qu'il puisse y avoir des tribulations. Oui, j'aimerais que nous nous arrêtions maintenant afin de rester chacun, seul, devant Dieu. Que nous puissions sonder avec lui notre cœur et que nous puissions dire à Dieu « Seigneur, je veux te servir. Tu vois aujourd'hui encore ce qui me retient, ne serait-ce que là. Et j'aimerais me décharger sur toi, te le donner. Et que tu puisses me montrer aussi que tu vas prendre soin de moi pour cette chose-là, que je ne sais pas de toute façon bien gérer. » Voilà, prenons quelques instants de silence. Seigneur, nous voulons encore ce matin te prier et te dire à toi, notre roi, notre divin maître, que nous désirons avancer et cheminer avec toi plus encore. Te ressembler et surtout répondre à ton appel, de savoir être là où tu désires que nous soyons, pour te servir et t'honorer. Seigneur, tu sais mieux que nous encore ce qui parfois nous retient, ce qui nous angoisse. Ces tracas qui parfois nous freinent dans notre souhait, notre désir de te suivre, d'accomplir ta volonté au jour le jour. Seigneur, nous voulons chacun te remettre déjà peut-être un premier fardeau. Donne-nous la force de vraiment savoir nous décharger sur toi, Seigneur. De savoir te faire plus encore confiance, d'avoir ce pas de foi important dans notre vie et de se dire que tu es plus à même que nous. De nous aider. Aide-nous à rester des hommes, des femmes responsables aussi dans les devoirs du quotidien que tu nous donnes, mais aide-nous aussi à savoir trouver la liberté en toi, en nous reposant sur toi, pour savoir te servir, pour savoir t'honorer, pour savoir être un témoin de ce que ton Fils a accompli et de pouvoir contribuer à ce privilège que tu nous fais de participer à l'avancement de ton royaume aujourd'hui. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qui a tout accompli pour nous que nous te prions encore là, ce matin. Amen.
Merci Emmanuel pour ton message.